pour moi, l'hiver, c'est aussi représentatif de Noël. Du coup, il y a des guirlandes, il y a la lumière, il y a des feux de cheminée.
Moi, j'aime bien parce qu'il y a de la neige et on peut faire des batailles de neige.
J'aime aussi parce que souvent, on mange des plats chauds, des chocolats chauds et tout.
La neige, les cadeaux, les bons plats chauds. Les bûches de Noël et...
J'aime surtout la dinde de Noël.
Moi, j'aime bien la première partie avant Noël et pendant Noël. Mais après, c'est un peu déprimant.
Moi, je préfère l'hiver à l'été, vraiment, largement. On est tout le temps en train de suer, dès qu'on se déplace, c'est horrible, on peut pas faire de sport. Alors qu'en hiver, il suffit juste de se couvrir, c'est réglé.
Pour mon papa, c'est mieux quand c'est l'hiver, parce qu'il aime bien faire des batailles de boules de neige.
Moi, j'aime bien parce que c'est trop drôle, mais par contre, c'est un petit peu dangereux, parce que si on fait dans le visage, ça pique les yeux.
Ouais. L'avantage de l'hiver, c'est aussi les bonhommes de neige, la neige.
Des fois, il peut neiger.
Les balades dans le bois d'un ami de nos grands-parents, où l'hiver, il y avait de la neige et des fois des violettes. Et ça faisait des sortes de grands espaces de violettes entourés de neige et c'était joli.
Quand on est vraiment paumé dans la montagne en hiver et qu'on est tout seul et qu'on fait des randonnées, là, c'est magnifique.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite de tout mon cœur un très joyeux solstice. Oui, bon, je sais, il y a autre chose le 25 décembre. Joyeux Noël, évidemment. Mais le solstice d'hiver aussi offre une raison de se réjouir. Depuis mardi, le soleil reprend le dessus. La nuit va tomber de plus en plus tard. Les journées rallongent. Cette saison nouvelle est une nouvelle occasion de s'émerveiller face au spectacle de la nature. Observons l'hiver avec les enfants et les ados. Voilà le programme de Barbatruc cette semaine. Comment les faire profiter des charmes de l'hiver? Comment leur donner des envies de promenade? Mes invités ont mille et un conseils. Oui, même quand il fait froid, ça vaut le coup. L'hiver est une saison idéale pour observer les oiseaux. On peut aussi être attentif au sourire des arbres. Comment ça? Vous ignorez que les arbres font des sourires? Alors restez à l'écoute. En hiver, on peut construire un hôtel à insectes, tout confort. Et puis, avec un peu de chance, simplement, regardez tomber la neige. Et donnez raison ô combien au poète Christian Bobin. Qu'est-ce que la neige? Un peu de froid, beaucoup d'enfance. C'est parti, promenons-nous en hiver.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
France Inter.
Émission en partenariat avec Bayer Jeunesse, réalisée par Christophe Imbert, préparée par Margot Page. Juliette Delperrou est à la technique. Et je vous présente les deux mordus de nature que j'ai invités pour chanter les louanges de l'hiver. Bonjour François Lasserre.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, vous êtes l'ami des petites bêtes. Vous êtes entomologiste, vice-président de l'OPI, Office pour les insectes et leur environnement. Également auteur et médiateur. Votre dernier livre s'intitule « Ma forêt » aux éditions Belin. C'est un guide de balade écolo. Vous avez publié aux éditions Nathan des cahiers d'activités pour les enfants, mon cahier des quatre saisons pour apprendre à observer la nature autour de soi. Et puis on vous doit aussi ces deux très beaux ouvrages chez Eubek, Inventaire des petites bêtes des villes, Inventaire des petites bêtes des jardins. Vous avez entendu François Lasserre, ses propos d'enfant en introduction. La neige, la neige, la neige, la neige, c'est le seul intérêt qu'il trouve à l'hiver ou presque. Votre défi, si vous l'acceptez, ce sera de sauver l'hiver, même sans la neige. C'est faisable?
Surtout sur la trace des autres animaux que nous, et en particulier les oiseaux. Au milieu d'arbres tout à fait étonnants l'hiver, et je crois qu'une spécialiste va nous en parler, parce qu'en plus ils sont tout nus, en tout cas une partie d'entre eux, et on les voit parfois beaucoup mieux d'ailleurs.
Exactement, vous serez accompagné pour relever ce défi d'une grande spécialiste des arbres, en duplex depuis Clermont-Ferrand. Bonjour Catherine Laine.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, je remercie au passage nos amis de France Bleu Auvergne pour la liaison en duplex. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Clermont-Auvergne, Catherine Laine, chercheuse en biologie végétale, dans un laboratoire qui s'appelle PIAF, mais qui n'a rien à voir avec les oiseaux. PIAF signifie physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Vos recherches portent sur la sensibilité des arbres, sur leur capacité à percevoir leur environnement. « Dans la peau d'un arbre », c'est le titre de votre dernier livre chez Belin, « Secrets et mystères des géants qui vous entourent ». Alors vous avez plein d'idées d'activités, hein, Catherine Laine, à proposer aux enfants, on va y venir. J'ai d'abord une question pour vous agacer un peu exprès. Hein. Les arbres sont-ils beaux même en hiver ?
Oh ben celle-là ne m'agace pas du tout, hein, parce que c'est même pas une question, c'est une évidence. Donc oui, bien sûr, les arbres sont beaux en hiver, et effectivement, parce que pour les feuillus, en tout cas, ils sont tout nus. Alors ça permet d'observer mieux leur architecture, leurs branches, et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui.
On les regarde pas, hein, en hiver en général, c'est bien dommage.
Oui, c'est vrai que on les voit moins. simplement parce qu'on a l'impression qu'ils sont soit morts au pire, soit en sommeil au mieux, et finalement on attend le retour du printemps. Mais il y a beaucoup de choses à voir en hiver.
Promenons-nous en hiver, c'est le programme de Barbatruc jusqu'à 16h.
I think I'd rather wait for the winter to come. I never make a move when I'm out in the sun. I'll be ready to forgive your foolish mistake when the water gets cold and freezes on the lake. I need a good night of sleeping, I need a little more time. I need to sleep for a few months before I make up my mind. I'll be up early in the morning and wide awake when the water gets cold and freezes on the lake. I saw your face in a dream, I heard your name in a vision. I give myself a season before I make a decision. My knees will be steady and my hands won't shake when the water gets cold and freezes on the lake. There's a lot of things I'm doing I never thought I would do. There's a lot of places in the world that I will never go to without you. Right now I need to stay home and I don't need your company. Right now I need to be alone and I need you to stay away from me. I love the smell of your hair and the blue of your eyes, but you're far too complicated and you tell a lot of lies. I'll see what's right and what's wrong, I'll see what's true and what's fake when the water gets cold and freezes on the lake. And then I'll send out invitations to my family and friends. They will come all the way from Sweden, they will come all the way from France. My brother will bless the wine and my sister will bake a cake when the water gets cold and freezes on the lake. Then when the time is right and when I think I understand, when I forget that you're a runaway, that you've had another man, you'll come to me crawling as fast as a snake when the water gets cold and freezes on the lake. There's a lot of things I'm doing I never thought I would do. There's a lot of places in the world that I will never go to without you. But right now I need to stay home and I don't need your company. Right now I need to be alone and I need you to stay away from me. Come on, brother.
C'était Herman Dune sur France Inter. La programmation musicale de Barbatruc est signée Jean-Baptiste Audibert. Je suis avec François Lasserre, l'ami des petites bêtes, et avec Catherine Laine, l'ami des arbres, en duplex de Clermont-Ferrand. Ils sont là pour nous souffler des trucs et astuces pour convaincre les enfants et les ados de mettre le nez dehors en hiver. François Lasserre, j'aimerais qu'on commence par une application. Une appli que je recommande aussi personnellement. Je l'ai testée et approuvée avec mes enfants. Ça s'appelle Geocaching, c'est gratuit. Comment ça marche ?
Alors, le geocaching, c'est une chasse au trésor qu'on peut organiser absolument n'importe où, puisque ça a commencé dans les années 2000, au début où on avait des tout petits GPS portables, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait rien. Et les dingues d'orientation, de chasse au trésor, se sont dit on va cacher des trucs et les gens vont les retrouver avec leur petit GPS portable. Et puis, depuis, ça s'est amélioré. Maintenant, il y a des applis sur les smartphones. Et en fait, vous lancez l'appli et vous rendez compte qu'autour de vous, il y a des cachettes, des trucs cachés, des trésors cachés absolument partout autour de vous. Il y en a des millions dans le monde entier. Vous pouvez faire du géocaching n'importe où, y compris au cœur d'une ville.
On peut soi-même en cacher, d'ailleurs, c'est participatif. Hein.
Alors, on peut aussi devenir géocacheur ou géocacheuse.
Géocacheur, vous dites-vous ?
Non, justement.
Ah,
c'est parce que
c'est ça du vient cache-cache.
Exactement, c'est une cachette. C'est
Moi, je disais géocaching, mais c'est géocaching.
Canadien, c'est géocaching, tout à fait. On est cacheur, on les cache. En revanche, n'est pas cacheur qui veut. Il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on connaît la mécanique. Donc, en gros, vous ouvrez l'appli, vous voyez qu'il y a des caches partout autour de vous, donc à côté ou dans la nature, dans la forêt, et vous cliquez dessus. Il va vous indiquer comment y aller. Alors, c'est vrai que il y en a qui sont un peu réticents à avoir un smartphone ou une appli quand ils sont dehors. Et en fait, ce qui est conseillé, c'est que quand vous êtes à environ 10 mètres de la cachette, du trésor, à trouver, vous rangez le téléphone et vous essayez de la trouver tout seul. Alors, au bout d'un moment, si vous n'y arrivez pas, il y a aussi des petites indications, des indices. On vous montre une photo, par exemple, de la cime de l'arbre au pied duquel il y a la cachette. Et une cachette un peu classique, c'est une petite boîte avec, en général, un petit roadbook. Vous avez le nom des personnes qui sont passées avant vous. Et il y a des petits objets, vous pouvez les échanger. Mais il y a plus de 10 sortes de cachettes. Parfois, il y en a des vraiment très compliqué. Il faut vraiment être inventif pour essayer de trouver la cachette. Mais il y a surtout un truc, c'est qu'en fait, en plus du fait de chercher quelque chose, donc c'est ça qui va déclencher les enfants et
chasse
tout le monde.
Chasse au trésor.
N'importe quel âge te dit, ah bon, il y a une cachette à trouver et tout, on y va. Et les adultes, tout le monde s'amuse. Et surtout, les cacheurs ou les cacheuses, en général, vous font découvrir un endroit que vous ne connaissiez pas. Alors, ça peut être des arbres remarquables, je pense à Catherine. Donc, souvent, la cachette va être au pied d'arbres absolument remarquables qu'on connaissait pas dans sa forêt. Ça peut être un point de vue, ça peut être un petit coin de forêt qu'on connaissait pas. Enfin, c'est toujours des endroits insolites, parce que c'est un prétexte, la cachette, à aller dehors, à sortir et à découvrir des trucs complètement insolites.
Le trésor, d'ailleurs, caché, est souvent aussi un prétexte. C'est souvent la liste des prénoms des enfants ou des familles qui ont trouvé le trésor précédemment.
Exactement.
On rajoute son nom et on est fier de soi.
C'est surtout le fait d'avoir cherché, d'avoir trouvé et aussi d'avoir découvert un endroit complètement insolite. Ça s'appelle le géocaching.
Voilà, pas du tout le géocaching, mais le géocaching.
Le géocaching. Tout le monde adore ça. Et puis après, du coup, quand vous avez trouvé le truc, vous la loguez. Et après, vous pouvez avoir le plus de cachettes trouvées possible. Enfin, bon, c'est évolutif.
On a mis à la page de Barbatruc sur le site de France Inter les références de cette application gratuite.
Barbatruc.
Est-ce que vous aimez bien l'hiver ?
Moi, j'aime pas parce que il fait trop froid et il y a beaucoup de froid et je déteste le froid. Je préfère le chaud, comme ça on peut faire les vacances et tout ça.
Moi, pas trop.
Et qu'est-ce qui est bien quand même l'hiver ?
Faire des batailles de boules de neige et puis faire de la luge, oui.
Moi, j'aime pas trop parce que franchement, l'hiver, il fait vraiment froid. Une fois, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais fait une crise tellement j'avais froid. J'avais les mains toutes rouges, je pleurais, voilà.
Pour moi, c'est un peu la saison lugubre, un peu gloomy, quoi.
Parce qu'on voit beaucoup moins les animaux, les arbres n'ont plus trop de feuilles, il y a du gel, on voit beaucoup moins de gens qui sortent, il y a beaucoup moins de trucs qui poussent.
Il y a beaucoup moins de feuilles que l'été.
Oui, c'est vrai.
Parce que il fait très froid. C'est comme avec les animaux, ils sortent beaucoup moins. Donc en gros, il y a du gel sur les arbres et tout.
Et vous trouvez que c'est joli ?
Non. Moi j'aime bien. Particulièrement, j'aime bien.
Pas terrible.
En fait, l'hiver sans neige, c'est pas inspirant. Il fait juste froid et c'est pas agréable. Mais sinon, moi, je préfère l'automne. Voilà. Parce que c'est plus inspirant. Et en plus, quand tu peins ou quand tu fais des arts. Parce que ici, par exemple, il y a des feuilles. Enfin, je sais pas. C'est même pas orange. C'est même pas un peu givré. C'est moche. Voilà.
Voilà. Ce sont des enfants des villes, je le précise. Des propos recueillis à Paris et à Bruxelles par notre reporter Juliette Proutot. Saison lugubre, a-t-on entendu. Saison pas très inspirante. On n'est pas sur une majorité d'enfants éblouis par l'hiver, Catherine Laine. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Alors, moi, ce que je leur réponds, c'est que pour trouver la beauté quelque part, faut ouvrir les yeux. Et peut-être simplement, l'automne, bien sûr, c'est beau, mais c'est facile, parce que tout est coloré, les feuilles ont des couleurs spectaculaires. L'hiver, les feuilles ne sont plus là. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à regarder. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est, approchez-vous, mettez le nez sur les branches, et cherchez ce qu'il y a de beau sur les branches l'hiver. Et on verra qu'il y a beaucoup de choses à observer sur les branches. Donc voilà, il faut ouvrir les yeux et prendre le temps de regarder les choses.
C'est la saison où on voit le mieux la forme des branches par ailleurs.
Oui, parce qu'effectivement, comme il n'y a plus les feuilles chez les feuillus, puisqu'elles sont tombées à l'automne, eh bien les branches sont faciles à observer, elles sont toutes nues. Donc justement, est-ce qu'on a déjà mis le nez sur une branche ? Est-ce qu'on a l'impression que c'est qu'un bout de bois ? Ou est-ce que c'est plus ?
Et c'est plus.
C'est même beaucoup plus.
Voilà, il sommeille. C'est une chose importante à dire aux enfants lors d'une promenade, Catherine Laine. Les arbres ne sont pas morts en hiver, ils dorment.
Alors, ils dorment, et puis peut-être que les enfants pourraient me dire, bah, comment tu le sais? Enfin, elle est où la preuve? Et donc, il y a un moyen assez simple de se rendre compte que l'arbre sommeille, bien, c'est de le réveiller. On peut le réveiller avant l'heure du printemps. Pour cela, il suffit de remettre ses branches dans des conditions douces, dans des conditions du printemps, c'est-à-dire finalement d'aller faire une petite cueillette dans la forêt ou dans le parc voisin, et de rentrer des branches dans la maison, dans l'appartement, de les mettre dans des vases avec de l'eau, et d'attendre que les branches se réveillent.
À la lumière, de préférence?
Alors, c'est oui, bien sûr, à la lumière de votre appartement. C'est même pas la peine de les mettre dans une exposition directe, hein, simplement la clarté de la maison ou de l'appartement, parce que finalement, la lumière n'est pas très importante. Là, c'est surtout la température qui va lever la dernière dormance, le sommeil ultime de ces bourgeons pour les réveiller.
On fait entrer le printemps de façon prématurée.
Oui. Alors, pour cela, il faut justement, quand on va cueillir les branches, ou avant de les cueillir, il faut les observer et voir que une branche, c'est pas un bout de bois tout simple. Une branche, c'est un axe de bois, on est d'accord, recouvert d'une écorce de liège, mais surtout, c'est un axe qui porte des bourgeons. Des bourgeons, et il y en a pas qu'un seul, il y en a beaucoup sur les branches. Alors, souvent, on entend dire, quand le printemps revient, ça y est, les bourgeons sont là, je vois les branches bourgeonnes, etc. On dit cela parce que au printemps, on voit apparaître les feuilles parce que les bourgeons s'ouvrent. Mais avant, on n'a pas vu que les bourgeons étaient déjà là. Mettez le nez sur les branches maintenant, en décembre, et puis même vous pouviez le faire dès le mois de septembre. Les bourgeons sont là depuis l'été dernier parce que l'arbre fabrique ses bourgeons en été. Il les fait rentrer en sommeil vers la fin de l'été. Et ensuite, les feuilles vont tomber. Mais ces bourgeons seront là pendant toute la période hivernale, dans le froid, en dormance.
Voilà,
donc finalement, quand on rentre des branches à l'intérieur de sa maison, on les remet en condition printanière, dans la douceur, et on va donc réveiller les bourgeons, et on va pouvoir observer l'ouverture de ces bourgeons et la pousse des feuilles. Ça va permettre, effectivement, quand les bourgeons vont s'ouvrir, d'abord d'observer le processus. Alors, faut être un peu patient, hein, quand on a ramené les branches au mois de février dans sa maison, début février, faut peut-être attendre 10, 15 jours, peut-être même 3 semaines. Mais
là, c'est trop tôt, pardon, fin décembre, c'est trop tôt. On attend plutôt février?
Alors, fin décembre, c'est un peu tôt, parce que en fait, j'ai pas tout dit, mais la dormance des bourgeons, le sommeil de ces bourgeons, il y a deux phases. Il y a une phase très profonde de sommeil qui débute à la fin de l'été et qui est finie, qui est levée justement à peu près à Noël, en moyenne, hein, chez toutes les essences. Donc ça, c'est la vraie dormance. Si on rentre des branches alors qu'elles sont en vraie dormance, il se passera rien. Par contre, dès que la vraie dormance est levée, dès que les bourgeons sont sortis de ce vrai sommeil, donc je dirais à partir de début janvier, c'est pour ça que je dis on attend février pour être sûr, donc là, les bourgeons vont pouvoir se réveiller correctement. Et puis, tous les jours, on va les regarder, tous les jours, on va même peut-être prendre une photo pour garder un souvenir de l'étape du jour. Et ensuite, on aura tout un album photo chronologique, hein, où on verra petit à petit le bourgeon s'ouvrir. Et qu'est-ce qui sort d'un bourgeon ? Eh bien, ce ne sont pas des feuilles, comme on le pense souvent, mais ce sont des branches feuillées. La nuance, elle est importante, parce qu'en fait, ce qu'il y a à l'intérieur d'un bourgeon, on peut même l'ouvrir en ce moment, hein, aller en couper un pour voir ce qu'il y a dedans, couper un bourgeon de marronnier, couper un bourgeon d'érable, ou de ce que vous voulez, et regarder à la loupe à l'intérieur. D'abord, vous verrez du vert, donc bien sûr des feuilles, mais vous verrez surtout une petite colline qui porte ses feuilles. Et cette petite colline, c'est la future branche, celle que vous allez voir s'allonger lorsque vous aurez rentré vos branches dans le salon.
Alors quand on parle aux enfants de l'hiver, le sujet qui les obsède, je le disais, c'est la neige. Ne les censurons pas.
Moi j'adore faire de la neige dans la neige, j'aime bien glisser, j'aime bien faire des batailles de neige.
Moi ça m'a déjà arrivé, et moi j'avais peur, ça m'a fait très mal, c'était une copine sans faire exprès, elle m'a la lancée et moi j'aime pas trop les batailles de boules de neige, et ben ça pique. Et j'aime bien aussi parce que en même temps c'est rigolo parce que après on est tout recouvert de neige. Et les bonhommes de neige, en fait, pour faire le chapeau, on n'a pas fait le chapeau parce qu'on n'avait pas de casserole et ni de chapeau. Ben moi j'en ai fait un.
Et comment t'as fait?
Ben il était tout petit, je l'ai imaginé tout mignon. En fait, j'ai fait une boule un peu plus grosse comme les boules de neige et une autre boule plus petite que l'autre. Et j'ai branché deux bâtons et moi, avec mes doigts, j'ai dessiné un petit visage. Mais le chapeau, moi, je pensais que le bonhomme de neige aimait pas trop parce que, en fait, il va avoir trop chaud. Et oui, je sais.
Moi, j'ai déjà fait un bonhomme de neige. Sauf que à chaque fois quand je fais une boule, ben la boule elle tombe, elle se détruit.
Oui, moi j'ai fait avec des bouchons, des branches et de la neige.
Tu fais un bonhomme de neige que la neige, mais quand il avait le soleil, il était tout dit cru et après moi j'ai bientôt pleuré.
C'est quoi la bonne technique pour faire un bonhomme de neige par exemple?
On commence par faire une grosse boule.
Ouais.
Et ensuite, on en fait une plus petite et ensuite une toute petite. Okay. On va chercher un chapeau, une écharpe, des petits cailloux et tout. Une carotte, souvent, pour le nez. Mm-hmm. Et des branches. C'est la technique que tout le monde utilise en gros. À peine on a fini d'asperger quelqu'un avec une boule de neige qu'on en a déjà préparé une autre. Donc en gros, on lui envoie encore à la figure.
Ou alors, pendant qu'il y en a un qui fait une boule, on lui fait un croche-patte et on prend la boule.
Et tu lui piques sa boule de neige?
Oui.
Ah, c'est une technique fourbe.
Ouais.
Voilà, propos recueillis par Juliette Proutot. Alors, on peut aussi prendre appui sur cette passion pour la neige, pour proposer aux enfants des activités nature à vertu éducative, François Lasserre. Sur la neige, il y a des traces.
Alors oui, ça c'est les animaux, les effacent pas derrière eux, les autres animaux. Et là, ils sont complètement trahis. Surtout sur la neige, parce que évidemment on pourra en reparler, mais les suivre dans la boue par exemple. Mais la neige recouvre tout, y compris les feuilles, parce que les feuilles cachent les empreintes des animaux, les traces. Et du coup, sur la neige, ils sont complètement trahis. Alors, on peut essayer de remonter la piste en amont ou en aval pour essayer de retrouver un terrier, par exemple. Et c'est sûr que la neige, ça, c'est complètement unique. Alors, il n'y a pas de neige partout. Et puis, je voudrais dire que parfois, on est un peu, quand on est des parents normaux, on n'y connaît un peu rien en traces. C'est normal. Et donc, on peut être un peu... on se dit, oh là là, mais j'y connais rien, comment je vais faire? Donc déjà, ça n'a aucune importance de rien connaître. Les enfants, on peut chercher ensemble, tous ensemble. Et puis, ce que je donne comme astuce aussi, c'est qu'on peut par exemple se dire, bon, ou demander à quelqu'un, quels sont les animaux qui vivent dans le coin, ou un animal vraiment très commun. Et se dire, par exemple, on va choisir la trace du chamois, par exemple, si on est vraiment dans la neige et un peu en hauteur, ou la trace du sanglier quand on est en forêt et dans la boue. Et on se contente de ça, parce que c'est souvent ce qui rebute un peu les parents, c'est qu'ils disent « Ah, mais non, moi je suis nul en nature ». Mais en fait, nul en nature, c'est que la référence, ce serait la personne qui connaît tous les animaux, toutes les traces et tout. Mais ça prend des années, donc on peut pas d'un seul coup comme ça devenir ou une spécialiste.
Donc se concentrer sur une espèce, sur un animal, repérer
exactement
la trace et la chercher partout.
Voilà, et on se moque des autres, parce qu'après, quand on accumule trop de l'eau, on cherche cette espèce, on se renseigne d'abord pour savoir si elle est dans le coin, et on se focalise là-dessus, et on ne regarde que celle-là, et au bout d'un moment, ça va rentrer, éventuellement, on peut après passer à une autre espèce, pourquoi pas, mais sinon, on devient le spécialiste de la trace du chevreuil, ou le spécialiste de la trace des sangliers, on sait exactement là, voilà, celui-là c'est un gros, c'est une petite, c'est un bébé, c'est une maman, etc.
Alors toujours au sujet de la neige, à tous les enfants qui ont la chance ou qui auront la chance ces jours-ci de voir de la neige, je recommande de faire des dessins dessus. Rien de follement original, me direz-vous, mais là on va mettre la barre un peu plus haut, on va faire ça bien en s'inspirant du travail de Sonja Inrichsen. C'est une artiste allemande qui utilise les étendues de neige un peu comme des toiles. Elle marche dans la neige pour y dessiner des motifs, beaucoup de spirales notamment. Le résultat pris en photo du ciel est absolument superbe. Alors je vous invite à montrer à vos enfants d'abord le travail de Sonja Inrichsen. On a mis un lien vers son site à la page de l'émission. Ces snow drawings, dessins sur neige, sont follement beaux. Seul le sapin souvent aide à se faire une idée de l'échelle. Ça fait de l'effet, les œuvres d'art sont immenses. Elle a dessiné des snow drawings sur la neige aux États-Unis, au Canada, en Finlande, mais aussi en France, en 2014, du côté de Serre-Chevalier. Évidemment, ça permet d'aborder avec les enfants l'idée de l'éphémère. Est-ce qu'il est dommage ou au contraire fichtrement poétique de concevoir des œuvres d'art qui ont vocation à disparaître quand fondra la neige ou quand tomberont de nouveaux flocons? que vous avez une idée de ma réponse. Ces œuvres d'art sont une magnifique invitation à la contemplation du spectacle de la nature. Catherine Laine, enseignante-chercheuse spécialiste des arbres, et François Lasserre, médiateur, auteur, spécialiste des insectes. Barbatruc célèbre l'hiver en ce 25 décembre. Catherine Laine, autre idée d'activité artistico-scientifique, dessiner les écorces des arbres. Comment procède-t-on ?
Alors oui, on peut faire des empreintes.
Voilà, des empreintes.
Ces écorces d'arbres. C'est-à-dire aller poser un support, un papier sur le tronc et avec une craie grasse, on dessine, on passe la craie grasse sur le papier et en fait les bosses de l'écorce vont s'imprimer sur la feuille. Ça fait de très jolis dessins. Là aussi, une technique dont se sont emparés les artistes et qui permet ce que j'aime bien moi faire avec les enfants, c'est-à-dire des collections. Oui. Vous savez que les enfants sont très collectionneurs et les grands-enfants aussi, parmi nous les adultes, continuent à collectionner. Alors il n'y a pas que les timbres qui se collectionnent ou les pièces, mais on peut collectionner justement les empreintes d'écorce. Ça permet aussi peut-être d'apprendre à reconnaître certaines écorces. Mmh. François disait à l'instant qu'on ne peut pas se déclarer spécialiste du jour au lendemain. Je suis complètement d'accord. Également dans le monde des plantes, c'est pareil. Et ça peut rebuter tous ces arbres qu'on ne connaît pas. Et donc, on peut aussi se concentrer sur retrouver une écorce particulière, apprendre à la reconnaître. Par exemple, moi, je pense aussi à nos enfants des villes qui n'ont pas facilement accès à la forêt ou à la montagne qu'on a évoquée. Et finalement, dans toutes les villes, il y a des platanes. Mmh. Et l'écorce du platane, elle est très facile à reconnaître. Elle forme des plaques de couleurs un peu différentes. L'empreinte montrera ces plaques. On peut donc partir à la chasse au trésor, faire du géocaching d'empreintes d'écorces, pardon, et rechercher par exemple les écorces de platane et donc pouvoir identifier au moins un arbre.
François Lasserre, vous êtes sensible à ces ateliers d'œuvres d'art sur la neige ou les empreintes d'écorce des arbres ?
Bah là, magnifique. Et c'est vrai qu'en éducation à la nature, éducation à l'environnement, on appelle ça art et nature ou land art en anglais. Et c'est vraiment une activité qui est vraiment utilisée partout, parce qu'on peut la faire toutes les saisons, et l'hiver se prête particulièrement bien à toutes ces œuvres d'art. Les enfants adorent, on aime beaucoup le côté éphémère, on fait des photos et on peut absolument la faire n'importe où. Et art et nature, c'est vraiment, voilà, les enfants sont un peu concentrés, à la fin on a un résultat, on utilise les éléments naturels qui sont autour de nous, parce que le land art parfois utilisait des choses qui viennent d'ailleurs, mais art et nature, ça utilise les éléments qu'on trouve autour de nous, et c'est une activité qu'on adore faire en hiver.
Ramener des trucs à la maison, pour le plus grand plaisir des parents, et encombrer notre intérieur de trésors.
Alors,
de la nature.
Je dirais que l'avantage de art et nature, c'est que justement, on laisse tout dehors.
Voilà,
on fait juste une photo.
Nous poursuivons notre exploration de l'hiver sur France Inter dans un instant, juste après Pete Doherty et Fred Lowe.
Barbatruc avec Dorothée Barba.
Bells, they chime. Bells, they chime in time. A vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slight shape shift across the maritime. In the estuary, there's a clue to find. Crime.
have I begun this too weirdly in the estuary? Oh, there's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Chainsaws grind in the summertime. Bells they chime.
Un barbatruc à la fraîche en ce 25 décembre. Nous nous penchons sur les charmes de l'hiver. Mes invités ont des astuces pour intéresser les enfants et les ados à la nature. Écoutons encore des enfants, vous ne serez pas insensibles à leur inquiétude.
Moi, je m'inquiète pour tous ces pauvres animaux parce que, en fait, ils sont obligés de se cacher pendant l'hiver et je suis sûre que c'est difficile pour eux.
Déjà, on voit quoi comme animal en hiver ?
On voit des poissons et des girafes.
Des poissons et des girafes en hiver ?
Moi, des loups de neige
et des chiens de neige,
des pingouins. Des ours polaires.
Est-ce qu'on voit beaucoup, par exemple, là on est dans un parc, est-ce qu'on voit beaucoup d'animaux l'hiver ?
Non. On voit que les chiens.
Ils hibernent parce que c'est pour le froid et il y en a qui font des réserves de nourriture pour les manger pendant l'hiver parce qu'il fait très froid et il n'a pas beaucoup, par exemple les écureuils, il n'a pas beaucoup de glands pendant l'hiver.
Peut-être parce que comme il fait très froid en France, bah ils restent dans leur maison et ils restent auprès du radiateur.
Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas beaucoup en hiver des animaux ?
Parce que, en fait, ils vont dans un pays qui est au milieu de la terre, qui va très très chaud parce que comme ça, ils peuvent passer la très hiver dans un endroit chaud.
Des fois, on peut voir des lapins des fois, mais des lapins blancs.
Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas trop des animaux l'hiver ?
Parce qu'il fait froid, donc en gros, ils cherchent leur nourriture et ils n'y arrivent pas, donc en gros, ils hibernent.
Des fois, il a des animaux, les dinosaures, ils sont morts.
Et tu crois que c'était à cause du froid ?
Oui, moi. Oui, c'est à cause des froids et les chauds.
Voilà, joyeux mélange, François Lasserre. Laissons de côté les dinosaures, si vous le voulez bien. C'est peut-être l'occasion d'expliquer la différence entre hiverner et hiberner.
Alors, ça paraît simple. En fait, hiverner, c'est un peu un néologisme, un nouveau terme qui veut simplement dire passer l'hiver. Mmh. Hiverner, donc les insectes hivernent. Et hiberner, c'est un processus physiologique qui arrive chez certains animaux, comme par exemple un loir ou les ours un petit peu. Et c'est vraiment le corps qui se met en veille. C'est vraiment un état physiologique particulier chez les mammifères. Donc, on peut dire en gros que tous les animaux hivernent à leur façon. Il y en a qui hivernent cachés, il y en a qui hivernent actifs. Et alors, je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que déjà les dinosaures n'ont pas disparu, les dinosaures actuels sont les oiseaux.
Mmh.
Et en hiver, il y a plein d'oiseaux qui trouvent la France, par exemple, très accueillante, parce que ce n'est pas le froid qui fait disparaître les animaux en hiver, c'est le manque de nourriture. Dans nos pays, en hiver, il y a quasiment plus de nourriture, donc du coup, on ne peut pas survivre. Et donc, plein d'animaux soit s'en vont, migrent, des oiseaux, des grenouilles, ou plutôt des crapauds, et des insectes. Il y a plein de nos papillons ou de nos libellules qui partent hiverner en Afrique. Donc ils s'en vont et qui reviendront l'année d'après. Et en printemps, au début à la sortie de l'hiver, il y a plein de papillons qui arrivent de très loin. Ils font comme les oiseaux. Et puis ceux qui sont très au nord, comme par exemple des oiseaux qui vivent très au nord, où vraiment l'hiver est très rude, là il y a de la neige partout, il y a du givre, il y a vraiment plus de nourriture, mais ils descendent dans nos pays, et là c'est hyper accueillant. Donc on a des oiseaux qu'on ne voit que l'hiver.
Voilà, excellente raison de ne pas rester sous son plaid en hiver. Il y a certains oiseaux qu'on ne voit
qu'en hiver.
Et ça, c'est incroyable parce que quand on ouvre un catalogue d'oiseaux, parfois on peut vous montrer quelques oiseaux, vous vous dites, bah, je ne l'ai vraiment jamais vu celui-là. Et pourtant, ils sont tous les ans en France autour de nous, sauf qu'on ne sort pas beaucoup, on ne pense pas faire une sortie ornithologique, comme on dit, on sort pas, on pense pas aller au bord de l'eau, éventuellement faire une sortie nature, parce qu'il y a des sorties autour des oiseaux l'hiver. Donc il y a, par exemple, en Bretagne, il y a des oiseaux qu'on ne voit absolument que l'hiver. Ils sont, si on sort et on est surpris, on a vraiment l'impression que ce sont des, presque des animaux un peu exotiques, et en fait non, c'est, ils sont là, ils passent l'hiver ici, et ils repartent au printemps. Donc, il y a
quels oiseaux en particulier?
Alors, il y a les bernaches cravants, par exemple, il y a les sarcelles d'hiver, qui sont des canards, il y en a vraiment plein, des oiseaux, mais qui sont là que l'hiver. Il y a les grues cendrées, en ce moment, on peut voir des milliers de grues cendrées passer, voire se poser en France, parfois rester à certains endroits, parce que les hivers sont un peu plus doux, donc des grues cendrées, on a vraiment l'impression d'être presque en safari quand on voit ça, et pourtant, il suffit de sortir.
Il manque les girafes, et c'est bon.
Et quasiment, et il suffit juste de sortir. Et parfois, alors, quand on n'y connaît rien, on est toujours un peu... Mais il y a encore, en hiver, des sorties organisées tout autour de vous. Il y a les associations ou parfois des collectivités qui organisent des animations nature, même en hiver, justement, pour aller voir tous ces animaux qu'on n'a absolument jamais vus.
Allez, on reprend dans un instant nos échanges autour de la nature en hiver. J'ai un conseil à vous donner, conseil de saison, pioché dans ma boîte à idées Barbatruc. Un immense et magnifique bouquin que je vous montre. Il s'appelle « À la recherche du Père Noël ». Il est signé Loïc Clément et Anne Mantel aux éditions Little Urban. C'est un cherche-et-trouve sur le modèle notamment de l'iconique « Où est Charlie ?». Ici, il faut trouver le Père Noël. On le cherche à chaque double page, dans la salle du courrier du Père Noël, dans la serre où poussent les sapins ou lors dans l'atelier des jouets. Ça fourmille de détails et de mini-scénettes très drôles sur lesquelles s'attarder pendant qu'on cherche l'homme en rouge. Il est souvent très bien planqué. Chaque page d'illustration est accompagnée d'un texte, car ce grand livre raconte aussi une histoire qui est joyeuse et loufoque. Voilà ce qu'on lit par exemple à la page de l'atelier de couture. La tradition des pulls moches de Noël se perd dans la nuit des mauvais temps. Certaines langues de vipères prétendent que l'on doit cette improbable mode vestimentaire aux Anglais. Mais c'est sans doute pour le plaisir de dire du mal de ce peuple si distingué. Pour être toujours en avance sur son temps, le pull moche requiert beaucoup de travail. Il n'y a rien de pire qu'un pull de Noël de bon goût. Ainsi, Stella et son petit groupe de stylistes sont constamment à la recherche des futures tendances du hideux et du repoussant. Et en effet, l'image le prouve, l'atelier en question foisonne de mauvais goût. Et cette page en particulier m'a beaucoup énervée parce que j'ai pas trouvé ce satané Père Noël à l'atelier couture. Quand on les a tous retrouvés, on recommence pour chercher d'autres personnages, notamment une petite chauve-souris très mignonne. Le dessin à l'aquarelle signé Anne Mantel est une merveille. C'est délicat, c'est plein de malice. On peut y passer de très longues heures. À la recherche du Père Noël, édition Little Urban. On n'oublie pas son bonnet et son tour de cou et on sort regarder les arbres, la nature, les oiseaux. Avec François Lasserre, entomologiste, spécialiste des insectes et vice-président de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Et avec Catherine Laine à distance depuis le studio de France Bleu Auvergne. Catherine Laine, chercheuse en biologie végétale à l'université de Clermont-Ferrand. Autrice de « Dans la peau d'une plante et dans la peau d'un arbre ». Cherchez les sourires des arbres. C'est l'un des conseils que vous donnez aux enfants, Catherine Laine. Et cela nécessite, je crois, une petite explication. Où se situent ces sourires?
Oui, alors effectivement, les arbres sourient, c'est-à-dire que leurs branches sont couvertes de sourires. Et regardez sur les branches, sous les bourgeons que vous avez déjà observés, il y a à chaque fois un petit sourire. Il n'est pas bien grand, hein, c'est tout petit. Qu'est-ce que c'est que ce sourire? C'est la trace qu'a laissé le pied de la feuille lorsqu'elle est tombée. Donc lorsque la feuille se détache, elle laisse une cicatrice sur la branche. Cette cicatrice s'appelle une cicatrice foliaire en science. Et moi j'appelle ça un sourire, parce que pour la plupart, ça ressemble à un sourire. Donc ça peut être amusant d'aller observer les branches, de les regarder de près, de prendre une petite loupe, même pourquoi pas, pour venir regarder les sourires de près et encore une fois les collectionner. Voir que les sourires du chêne ne sont pas les mêmes que les sourires du marronnier ou les sourires du noyer, etc.
On en voit quelques exemples en photo dans votre livre « Dans la peau d'un arbre ». Sur quelle essence d'arbre ces traces sont-elles les plus jolies d'après vous, Catherine Laine?
Alors justement, le noyé, il a vraiment des vrais sourires, hein, c'est assez impressionnant. Ouais. Le marronnier, ce sont de très grands sourires, des très grandes cicatrices, voire parfois même en forme de losange. Alors le sourire, là, il est un peu plus déformé, mais ça permet quand même de se rendre compte qu'à chaque fois la forme est différente, ce qui est lié en fait à la forme du pied de la feuille, hein, qui est différent selon les essences. Et puis sur les plus grands des sourires, on voit des petits points à l'intérieur de ces sourires, et ces petits points, ce sont en fait les traces des nervures de la feuille, de ces veines qui permettaient à la feuille d'être alimentée en eau et d'alimenter l'arbre en sucre. Donc on voit également le côté fonctionnel du sourire.
Voilà, très bonne idée d'activité à pratiquer en plein air, prendre des photos et collectionner les sourires des arbres et voir surtout les différences entre les différentes essences, les cicatrices foliaires. C'est vrai que sourire, c'est plus joli quand même, Catherine Laine.
Oui, c'est beau.
À quoi peut servir un miroir quand on se promène en forêt, Catherine Laine?
Ah oui, ça aussi, c'est amusant. Alors, ça peut servir en fait à renverser le monde. Parce que quand on se promène en forêt, bon, bah voilà, on a les pieds par terre, on regarde en l'air en général ou pas, on regarde devant pour pas tomber. Et ce qui peut être très amusant, c'est de marcher en tenant un miroir dans les mains, miroir tourné vers le ciel et en regardant dans le miroir. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est bien sûr le haut des arbres dans son miroir, le ciel. On ne voit plus le sol parce que le miroir le cache plus ou moins. Et on a vraiment l'impression de marcher au milieu des branches. Et c'est une façon de perdre la tête que je trouve très amusante.
Mais vous savez comment ça va se terminer, cette histoire? On va se prendre un arbre en pleine poire.
Mais c'est pas grave, à ce moment-là, vous verrez de près son écorce, ses sourires, ses bourgeons. Donc...
Tous les prétextes sont bons pour regarder Exactement. De très près l'écorce des arbres. François Lasserre?
Oui, alors vaut mieux être deux pour faire cette activité.
Oui, c'est vrai.
Vaut mieux être deux. C'est une activité dite d'éducation à l'environnement qui est très utilisée en éducation à l'environnement parce qu'elle est absolument incroyable à vivre. Et il y en a une autre, j'en profite, Catherine, Vas-y. Encore en duo. C'est qu'on se met en par deux. Il y en a un ou une qui se bande les yeux. L'autre emmène la personne en faisant des zigzags au pied d'un arbre, au bord d'un arbre, lui demande de le toucher. Elle fait ce qu'elle veut, elle touche. Une fois que c'est terminé, l'autre personne la ramène l'autre personne, mais en faisant des zigzags, en la perdant un peu. Et ensuite, elle s'éloigne un peu, à quelques mètres de l'arbre. Ça s'appelle Arbre, l'arbre de mon ami, je crois. Elle enlève le bandeau et elle demande à la personne de retrouver l'arbre qu'elle a tripoté, qu'elle a touché, caressé. Et c'est absolument incroyable parce que soit la personne va éventuellement le trouver assez rapidement ou va mettre un temps fou et ensuite c'est à elle de retourner, de toucher un arbre. Et là c'est vraiment une rencontre particulière parce que là du coup on passe vraiment du temps avec cet individu-là.
Et vous nous conseillez aussi, Catherine Laine, de prendre une loupe pour les balades en forêt avec les enfants pour qu'ils se sentent un peu comme des explorateurs et des exploratrices.
Oui, c'est vrai que la loupe, c'est un petit instrument facile à se procurer. Hein. Soit c'est la loupe de Sherlock Holmes avec son manche, soit c'est la boîte loupe de François pour les insectes, soit c'est la mienne, la loupe de botaniste. Hein. Vous savez, la petite loupe, on appelle ça la loupe de géologue ou de joaillier, qui permet, en la mettant très proche de l'œil, d'observer tout un monde absolument fabuleux. C'est léger, ça tient dans une poche ou autour du cou, hein, accroché à un lacet, et ça permet de regarder le monde autrement, de voir le petit, d'avoir accès justement à des choses dont on n'a pas idée. Ne serait-ce que regarder justement les fameux sourires dont je vous parlais, ou de très près les écorces.
Les
D'ailleurs,
bourgeons.
Vous y verrez aussi des petites choses qui se promènent sur les écorces. Hein. Regardez la fourmi qui passe. C'est absolument merveilleux, la loupe.
Les jumelles aussi, évidemment, autour du cou.
Alors les jumelles, oui, ça sera certainement François qui en parlera plus que moi. Et en même temps, les jumelles, c'est pas mal aussi pour observer les branches au sommet d'un arbre.
Monomaniaque des arbres. Un peu,
oui, et les jumelles, surtout Catherine, on peut les retourner et à ce moment-là, elles font loupe.
C'est vrai, tu as raison.
Quand vous les retournez, et là, vous pouvez regarder des choses de très très près et ça fait loupe. Donc ça pourrait, si on n'a pas sa petite loupe x10, celle que décrivait Catherine, on peut utiliser les jumelles comme ça.
Est-ce que je peux rajouter aussi un dernier instrument que tu as cité tout à l'heure, François? C'était le fameux smartphone qui peut aussi avoir son utilité sur le terrain, c'est-à-dire que le smartphone prend des photos et des photos de macro. On peut faire de très belles photos et grossir très fortement ce qu'on veut observer, même si on n'a pas la loupe, en passant par le téléphone.
Alors, je voudrais qu'on en vienne à présent à ce qu'on peut construire, notamment en hiver, des nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes. François Lasserre.
Alors, il n'y a pas de saison presque pour faire des nichoirs, etc. En fait, idéalement, on pose les nichoirs avant l'hiver. Enfin, les nichoirs, idéalement, c'est avant le printemps, bien sûr, puisque c'est pour nicher. Mais il y a plein d'oiseaux qui vont se servir des nichoirs pour s'abriter en hiver. Et puis, il y a certains oiseaux qui sont assez précoces, qui vont repérer les lieux dès février, qui vont commencer à repérer. Et s'ils ont repéré leur nichoir, ben, il sera d'autant plus utilisé.
Donc c'est bien quand même, l'hiver. C'est le bon moment là pour en faire.
Oui, pour en faire, pour en poser. En fait, c'est valable presque toute l'année. En revanche, on parle aussi de nichoirs ou abris à insectes. Et les abris, en revanche, là, c'est pour l'hiver. Alors, on va pas mettre de la nourriture à l'intérieur, puisqu'ils hivernent, ils se mettent en pause, ils ne mangent plus.
Voilà, on ne met rien à manger dans les hôtels à insectes.
On ne met rien à manger dans un hôtel à insectes. L'hôtel à insectes, il permet deux choses. Il permet aux insectes de nicher au printemps, et souvent très tôt à la sortie de l'hiver, voire à la fin de l'hiver. Donc, c'est pour ça que c'est important de les installer, y compris là, en hiver. Parce qu'il y a des insectes qui vont commencer à nicher dès la fin février ou début mars. Donc on installe son nichoir et idéalement on aura fait quelques abris pour les insectes qui vont hiverner. Alors ceux-là, ils hivernent à la fin de l'été, au début de l'automne, donc si c'est au cœur de l'hiver, ils n'hiverneront plus dedans, tout le monde est dans son coin. En revanche, il y a souvent des déceptions avec ces hôtels insectes parce que les gens n'ont pas les quelques petites indications absolument essentielles pour que ça fonctionne.
Dites-nous tout.
Ça fonctionne à 100% un hôtel à insectes. Il suffit de suivre quelques règles. Et c'est pour ça que sur mon blog, j'ai mis comment réussir son hôtel à insectes à 100%. Parce que souvent, c'est un peu décevant. On passe un temps fou à faire un hôtel à insectes. On l'installe souvent au mauvais endroit, mauvaise orientation, avec des tiges de bambou, mais qui sont percées alors qu'il faut qu'elles soient fermées au bout. Il faut qu'elles aient tel diamètre. Si elles sont trop grandes, les insectes vont pas s'y installer. Donc, on peut être un peu déçu. Mais si on suit quelques règles, ça fonctionne à 100%.
Voilà, toutes les règles sont sur votre blog. On met un lien à la page de l'émission sur le site de France Inter. Peut-être la règle la plus importante.
C'est l'exposition, c'est sûr. Faut que ce soit au soleil, mais c'est vrai que pour certaines abeilles et guêpes solitaires, il leur faut certains diamètres de tubes. Il faut surtout qu'ils soient bouchés au bout. Ça, c'est très important. Faut qu'ils tiennent. Et les boîtes qui sont un peu, les abris, ne vont servir que l'hiver. Donc, si on s'attend au printemps à avoir des trucs à l'intérieur, ça va pas être le cas.
Il y a un débat chez les naturalistes autour de l'hôtel à insectes. Beaucoup préfèrent les abris naturels. Peut-être leur grand mérite, c'est de rendre visibles les insectes en ville et à la campagne.
Alors, bien sûr que idéalement, on laisserait des friches, des arbres morts dans lesquels il y a plein d'abris pour toutes ces abeilles et tout. Ce serait formidable, mais on va pas pouvoir le faire du jour au lendemain. Jusque là, on a plutôt fait en sorte d'écarter tous les insectes des villes, sauf quelques ruches de temps en temps, mais on a fait en sorte d'écarter les... Donc, pour les faire revenir petit à petit, y compris dans la tête des gens, parce que c'est... Eh bien, on fait des petits hôtels à insectes, on dit, voilà, ils sont là. En plus, c'est un peu rassurant, on se dit, bon, ils sont là, ils sont pas chez nous, mais en fait, les insectes qui viennent dans ces hôtels à insectes, dans ces abris, ils sont pas des insectes qui rentrent dans les maisons. Et donc, c'est une forme de transition, voilà. Et bien sûr que demain, il y aura, y compris dans les murs de tous les immeubles, des petites anfractuosités, des nichoirs pour les oiseaux, des nichoirs pour les abeilles sauvages et les guêpes sauvages, etc. Mais ça, c'est demain.
Ça, c'est demain. Encore une application à conseiller, elle s'appelle Bird Lab. Application gratuite à télécharger sur son téléphone, proposée par le Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est un jeu pour aider la science, François Lasserre. C'est une compète entre nichoirs à oiseaux, c'est ça hein ?
Compète à la mangeoire.
Alors, cette
appli, elle est complètement incroyable.
Super.
Donc, elle fait partie de ce qu'on appelle les sciences participatives. C'est quand le grand public aide les scientifiques à compter les oiseaux, les escargots, les papillons, etc. Et celle-là, elle permet de connaître les interactions et les espèces qui viennent à la mangeoire. Et en fait, le muséum a conçu une application qui est un jeu. Alors, il y a un protocole, toujours, très rigoureux, justement pour que les scientifiques puissent utiliser les données. Vous devez faire deux mangeoires identiques.
Tout est expliqué. Une planche et des tasseaux de bois.
Voilà, vous faites... Et ensuite, avec l'appli, vous jouez avec les oiseaux qui viennent en vrai. Donc, ce sont des vrais oiseaux. Et vous jouez sur l'application. Et votre jeu, vos données, ce que vous avez joué, ce que vous avez manipulé avec vos doigts, ben, ça va. Et ce sont des données importantes pour les scientifiques. Donc, et en plus, plus, le Bird Lab, c'est de novembre à mars. Donc c'est en ce moment qu'on peut aider les scientifiques à mieux connaître tous ces insectes de l'hiver. Ces oiseaux de l'hiver.
Application gratuite de science participative. C'est formidable, ça s'appelle Bird Lab. Catherine Laine, je voudrais qu'on termine avec une dernière idée que vous nous avez soufflée en préparant cette émission. En hiver, il y a aussi de la vie qui dort dans les pommes de pin. Et on peut faire pousser des plantes sur les pommes de pin, je l'ignorais. Comment est-ce qu'on fait ?
Alors, parce que à l'intérieur d'une pomme de pin, ce qu'on appelle une pomme de pin, c'est un cône femelle de conifère, il y a des graines. Et donc, on peut, là, comme pour les bourgeons, on peut réveiller ces graines, si on le veut, à l'intérieur de la maison. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller à la chasse au trésor, encore une fois, aller ramasser des pommes de pin, ou du moins les ramasser ou les cueillir même sur l'arbre, pas trop ouvertes, et quand même déjà suffisamment grosses, ramener à la maison, les laisser s'ouvrir un peu à la chaleur de la maison. Et comme ça, on peut observer les graines qui dorment sur chaque écaille de ce cône. Et puis, on plante le cône dans un pot de fleurs avec un peu de terreau et on vaporise de l'eau un peu tous les jours et vous verrez que les graines vont germer. Il faut avoir mis aussi un petit peu de terre entre les écailles et chaque graine va germer. Il va y avoir un petit pin qui va pousser sur chaque écaille, puisque sur chaque écaille de ce cône, il y a deux graines à chaque fois.
Donc c'est une forêt miniature, la pomme de pin.
Une forêt miniature, voilà. Alors ça peut être amusant. Là aussi, c'est une activité où il faut de la patience, hein, parce que il faut le temps que ça pousse, mais ça peut être quelque chose d'intéressant également.
Voilà, faire pousser des mini pins sur des pommes de pin, l'idée est très réjouissante. On a mis scrupuleusement sur notre site toutes les idées, les trucs et les astuces de nos invités pour réenchanter l'hiver avec les enfants. Nous approchons de la fin de Barbatruc. J'ai une dernière question à vous poser à tous les deux, question rituelle. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. François Lasserre.
L'odeur de mon enfance, ça alors. Je suis pas sûr. C'est vrai que je tripotais très souvent les insectes, j'en avais pas peur. Et il y a évidemment pas mal de punaises qui m'ont lâché leur petite odeur repoussante qui leur permet d'éviter les prédateurs. Alors c'est vrai que la première fois qu'on la sent, c'est un peu repoussant. Et puis à la longue, j'ai fini par adorer cette odeur. Et maintenant, une odeur, une espèce de proute de punaise. J'adore ça, j'y suis habitué. En fait, ça prouve aussi que quand on peut s'habituer à toutes les odeurs... Et je finis par adorer l'odeur de la punaise. Et c'est vrai que j'ai trouvé un peu mieux quand même, c'est celle de la cétoine dorée. Maintenant, ça sent un peu la banane écrasée. Et quand la cétoine dorée me fait un petit caca dans la main, j'adore ça.
Vous êtes
ça.
Le plus heureux des hommes.
Voilà.
C'est magnifique. Catherine Laine, quelle est l'odeur de votre enfance?
Alors, moi, je suis pas comme François, scatologique, à collectionner les odeurs de prout. Enfin, François, quand même.
Un peu de tenue.
Et donc, moi, l'odeur de mon enfance, c'est amusant en entendant la question, c'est immédiat. Dans mon esprit, l'odeur qui s'allume, c'est l'odeur des cabanes qu'on construisait dans les pins et les pins maritimes. Parce que mon enfance, c'est au bord de la mer et on grimpait tout le temps dans les arbres et on allait construire des cabanes, plus ou moins de briques et de brocs. On se collait partout, d'ailleurs, on revenait couvert de résine. Et donc, c'est cette odeur de résine, moi.
L'odeur des cabanes et celle des proutes de punaise. Magnifique, les parfums de la semaine. Merci beaucoup à tous les deux. Et j'adresse un salut amical à Denis Chessoux qui fait une petite pause de quelques semaines et qui sera de retour après avoir hiberné, frais et pimpant pour l'atulu mon petit loup. François Lasserre, je recommande aux enfants vos cahiers d'activités pour apprendre à observer la nature. Mon cahier des quatre saisons, édition Nathan. Et puis ces deux gros et beaux bouquins à consulter en famille. Inventaire des petites bêtes des jardins, inventaire des petites bêtes des villes. Les deux aux éditions Eubec. Je n'oublie pas Ma Forêt, plus petit format à glisser dans sa poche avant de se balader. Édité chez Belin dans la collection Mes balades écolo. Le livre de Catherine Laine est plutôt pour les adultes, mais très accessible. Dans la peau d'un arbre chez Belin. Secrets et mystères des géants qui vous entourent pour tout comprendre à la croissance des arbres, à leur reproduction, à leur sens de l'adaptation et à leur incroyable sensibilité. Grand merci à tous les deux.
Merci Dorothée.
Merci beaucoup, bonne journée et joyeuses fêtes de fin d'année.